Bénisseux Info aujourd'hui vous reçoit pour vous poser 2-3 questions sur les élections municipales qui vont venir. Vous avez mis à votre programme la priorité à l'emploi. Comment on ramène de l'emploi dans notre ville par l'intermédiaire d'une municipalité?
D'abord, merci à vous de me poser ces questions et merci aussi de permettre aux Vénitiens d'avoir une autre information que celle du journal municipal dont je ne tairai le nom, puisqu'il est payé quand même avec l'argent de nos impôts et que l'opposition n'y a pas droit de citer. En espérant que, dès le 29 mars 2015, on change complètement d'orientation et notamment de ligne éditoriale de ce journal.
D'accord.
Alors, pour l'emploi, on revient concrètement. Nous, on propose des mesures concrètes pour l'emploi. Cette maison de l'emploi et de l'entreprise, elle a fait ses preuves à Lyon, elle le fera aussi à Vénissieux. On constate qu'on a une mission locale qui est complètement submergée, qui ne, malheureusement ne répond pas aux demandes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement que les créateurs d'entreprises, les chercheurs d'emploi, les chercheurs aussi de stage, parce qu'on a aussi des jeunes qui cherchent pas mal de stages, notamment ceux qui font un BTS alterné ou de l'apprentissage, tout simple, ils aient un interlocuteur en face d'eux. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs guichets qui sont ouverts, que ce soit celui de la région, la mission locale, et puis je vous passe tous les dispositifs qui sont mis en place. L'objectif, c'est d'avoir sur la même plateforme tous les interlocuteurs de l'emploi. La région, le Grand Lyon, pour le développement économique, le Pôle emploi, tous les autres organismes concernant la formation et l'aide à l'emploi. Et bien évidemment, la ville qui met à disposition les locaux et qui fait l'interface. Moi, en tout cas, pour nous, c'est ce qu'on défend et c'est notre priorité. Cette maison de l'emploi dont grand nombre de candidats parlent. Moi, je veux juste rappeler que le Parti communiste, ça fait quand même 88 ans qu'il est aux manettes de la ville et que si vraiment il avait voulu non seulement ramener des entreprises à Vénissieux, mais surtout conserver celles qui ont envie de partir. Elles ont envie de partir parce qu'elles ne trouvent pas d'interlocuteur crédible en face. C'est pour ces raisons-là. Et qu'est-ce que fera le Parti communiste de mieux que ce qu'il n'a fait depuis 88 ans? Je ne veux quand même pas tout remettre sur le dos de Mme Picard, mais qu'est-ce qu'elle fera, Mme Picard, de mieux que ce qu'elle fait depuis 7 ans? Eh bien, rien de plus. Donc moi, j'invite quand même les Vénitiens à réfléchir sur le programme et ce qui est proposé par les uns et par les autres. Moi, je veux juste rappeler que, premièrement, on est la seule liste qui est dans la majorité métropolitaine, que les relations avec la métropole seront apaisées, que les réalisations que nous ferons, en tout cas ce qu'on propose, c'est réalisable. Quand je parle de 1000 activités pour les jeunes, ce n'est pas la ville qui va sortir l'argent, ce sont des dispositifs qui existent déjà, que ce soit le service civique, qui se bat depuis 2010. Je rappelle juste un chiffre, on a 4 candidats pour un poste, donc ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des manques dans certains services de la ville. On pourrait tout simplement prendre ces services civiques pour mettre un premier pas, pour que nos jeunes mettent un premier pas dans l'emploi, qu'ils sachent ce que c'est que la vie professionnelle, et en même temps donner un coup de pouce non seulement pour l'emploi, mais donner un coup de pouce aussi aux jeunes.
Ça a un coût tout ça.
Le coût, le service civique, c'est 95% financé par l'État. Donc le coût, il est quand même moindre. La ville aujourd'hui perd beaucoup plus d'argent avec des agents qui sont en maladie, malheureusement, et c'est pas pour les stigmatiser, c'est tout simplement parce qu'il y a un mal-être au travail, c'est parce qu'il y a des risques psychosociaux qui ont toujours été ignorés au sein de cette collectivité, et c'est parce qu'on a une politique des ressources humaines qui malheureusement est déplorable. Et depuis des années, ça n'est pas d'aujourd'hui. Je veux juste rappeler quand même que lorsque je suis arrivé en 2008, j'ai cavalé pendant 2 ans pour mettre en place des réunions préparatoires entre les élus et les syndicats pour les comités techniques paritaires. Et c'est pas rien. Ça ne se faisait pas.
D'accord. Comment fait la ville pour faire venir des entreprises qui vont embaucher des jeunes de nos quartiers, ou moins jeunes d'ailleurs? Comment la ville, elle défiscalise par rapport à l'entreprise? Elle donne du terrain gratuitement?
Non, alors donner du terrain gratuitement, ça moi je m'y oppose parce que tout simplement... Il faut vraiment aller au fond du sujet. Donner du terrain gratuitement, ça veut dire qu'on supposerait qu'on a des réserves foncières à donner. Mais pourquoi? Pour quel objectif? Est-ce que c'est l'objectif pour avoir des emplois précaires? Les entreprises n'ont pas besoin qu'on leur donne des terrains. Les entreprises ont besoin de quoi? D'infrastructures, de transport, de logistique, d'une oreille pour les écouter, d'une aide. Et bien tout ça, on l'a à Vénissieux. On a le tramway, on a le métro, on a les infrastructures, on a tout ce qu'il faut. tous les moyens logistiques. On a une zone commerciale, une zone industrielle qui est quand même très étendue. On a 29 000 emplois sur Vénissieux. On a 3 300 entreprises. Je vous parlais tout à l'heure des emplois. Et je vous parle aussi des emplois d'avenir. 3 300 entreprises. Aujourd'hui, combien d'emplois d'avenir dans les entreprises ? La ville de Vénissieux, elle prend 13 emplois d'avenir et 7 apprentissages. C'est pas assez. Donc, il faut...
Vous allez prendre des contrats d'avenir...
On va aller voir les entreprises. Moi, je me ferai le défenseur de ceux qui n'ont pas d'emploi, qui ceux qui recherchent une solution, que ce soit pour de l'apprentissage ou pour autre chose. Je rappelle quand même que la région donne 40% du budget à la mission locale. Donc, c'est pas rien. Et avec ça, on peut faire. Avec ça, on peut faire. Il faut arrêter de penser qu'on ne peut pas faire. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire, c'est ceux qui sont dans ce système qui est complètement sclérosé, verrouillé, qui n'ont plus envie de faire, qui n'ont plus le goût d'entreprendre, qui n'ont plus le goût de la proximité avec les gens. Moi, les marchés, je ne les ai pas quittés le lendemain des élections. Je suis toujours là et je suis toujours à l'écoute.
Dans le domaine de l'enfance et l'éducation, vous parlez d'une mise en place d'un accueil périscolaire gratuit dès 7h30.
Oui.
C'est comme la crèche, en fait.
C'est un accueil périscolaire dès 7h30, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en difficulté, parce qu'ils travaillent avant. On peut très bien imaginer ce système, si on n'a plus de place dans les crèches, et bien de mettre aussi quelques enfants chez des nourrices agréées, avec une convention, pour faire en sorte que les parents qui travaillent ne soient pas pénalisés.
Oui, et notamment moyens, pour les mères. Il faut des moyens humains, financiers,
mais oui, mais
matériels.
Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais je vais vous expliquer. Il y a des moyens aujourd'hui. Madame Picard choisit de mettre 1,5 million d'euros sur de la prestation intellectuelle et 1 million d'euros sur de la communication et de la propagande. Donc moi, cet argent-là, je préfère le mettre dans les crèches, dans les écoles, dans l'éducation. À notre chiffre. Quand on a quand même 28 000 jours de maladie sur l'ensemble des fonctionnaires, c'est-à-dire 1 200 et quelques, c'est énorme. Mais il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi les agents se sentent en mal-être dans leur service ? Pourquoi ils ne se sentent pas considérés ? Pourquoi ils ne se sentent pas écoutés ? Mais il faut s'attaquer aux causes et pas aux conséquences.
Et vous ouvrez les cantines scolaires le mercredi.
On ouvrira les cantines scolaires.
Aujourd'hui, elle ne veut pas le faire.
Alors, non seulement elle ne veut pas ouvrir les cantines scolaires le mercredi, parce que d'abord, elle n'est pas à l'écoute des habitants. En plus, elle ne veut pas mettre de repas de substitution, ce qui est quand même scandaleux. On a une population ici qui est diverse à Vénissieux, et quand on prône le vivre ensemble, eh bien, il faut aussi savoir écouter. Moi, j'écoute, et je suis très, très attentif à cette demande. C'est une demande que l'on porte. Les repas de substitution, ça se fait de partout. Il n'y a que les villes où l'idéologie prime, où ça ne se fait pas.
C'est clair. Sur la santé, vous comptez mettre en place une mutuelle municipale. Comment vous la financez ?
Tout à fait.
Est-ce que les Vénitiens n'auront pas à payer le tiers payant ?
Alors, c'est la mutuelle municipale, c'est
Et vous parlez aussi d'un passeport santé sport.
Passeport et culture.
D'accord.
Alors, passeport et culture, le système existe déjà. On n'a rien inventé.
Ouais.
Une carte où... qui est pluridisciplinaire, qui fasse culture et sport, tout simplement parce qu'on a des conventions avec les associations qui le souhaitent. Aujourd'hui, on donne quand même des subventions aux associations. Certaines obtiennent des résultats, d'autres n'en obtiennent pas. Il ne s'agit pas de pointer les uns et les autres, il s'agit tout simplement de discuter avec les associations en leur disant « Nous, on a besoin que la majorité de notre population fasse du sport, parce que c'est important pour la socialisation, c'est important aussi pour la santé. »
Oui, mais pour la mutuelle,
pour la santé,
c'est pas très clair.
Alors, juste après, ça c'était le pass sport et culture. Sur la mutuelle santé, c'est très simple. Un cahier des charges fait et lancé par la ville. La ville ne paye rien. C'est tout simplement permettre aux Vénitiens d'avoir une mutuelle la moins élevée possible avec des prix les plus attractifs possibles avec un maximum de garanties. Une commune comme Morland l'a mis en place.
Morland ne paye rien. C'est une mutuelle gérée par la ville ?
Non, pas du tout. La mutuelle se gère par la mutuelle. Enfin, je veux dire, vous avez des mutuelles. Vous allez payer, au lieu de payer, je ne sais pas moi, 150 euros, 200 euros par mois, avec un cahier, avec un appel d'offres lancé, donc plusieurs Vénitiens. Et nous, on met en place cet appel d'offres. Et les Vénitiens le payaient, je ne sais pas moi, 150 euros, 200 euros. Mais peut-être qu'ils payeront que 60.
Qui aura droit à ce
mais tous, qui payeront 75 euros, 70 euros pour avoir
un
mutuel.
Un plafond de ressources.
Non, mais tout le monde.
Il y a déjà la CMU, il y a la CS.
Oui, mais ça sera en fonction de leurs revenus. Ceux qui ont des revenus, ils n'ont pas besoin de la ville pour financer leur mutuel. Par contre, ceux qui n'ont pas de revenus, la CS, oui, mais c'est à partir de 800 euros, ils ne touchent rien. Donc, et ceux qui sont dans cette tranche-là, comment ils font pour se soigner ? On a la santé, c'est quand même, je veux dire, c'est une question qui est éminemment importante.
sur le logement, on a un point noir qui s'appelle la Sacoville, qui est gérée par la ville.
C'est de moi que vous parlez, non? Pardon.
Je parlais de la Sacoville. Est-ce que vous allez, si vous êtes élu maire, est-ce que vous vendez la Sacoville? Vous parlez d'une ESH, c'est-à-dire c'est une.
Aujourd'hui, la Sacoville, d'abord, quand Madame Picard dit qu'on ne vote pas les garanties d'emprunt, mais on ne vote pas les garanties d'emprunt pour les bailleurs privés qui sont financés par des banques. Les banques n'ont pas besoin de nous, n'ont pas besoin de la ville pour avoir des prêts. Donc elles n'ont pas besoin de ça. Moi, quand je vois la Sacoville qui, depuis plus de 2 ans, ne demande plus de garantie d'emprunt à la ville, ça veut dire que la Sacoville n'investit plus. Et quand un bailleur n'investit plus, c'est-à-dire que c'est un bailleur qui est en train de mourir. Donc cette SEM, qui quand même, c'est d'économistes de la ville de Vénissieux, 75% c'est la ville qui la détient, eh ben, elle a un patrimoine qui est vieillissant. Je ne veux pas revenir sur l'épisode des punaises de lit. Je ne veux pas revenir non plus sur l'épisode des colonnes sèches aumôneries, sur le réseau de chauffage qui explose, sur de l'insalubrité dans les allées, sur des locataires qui ne sont pas contents et des agents de la Sacoville qui ne sont pas contents non plus. Donc, on voit bien que la Sacoville, d'ailleurs, la chambre régionale des comptes, enfin la Milos a pointé quand même les dysfonctionnements de la Sacoville, c'est pour moi qui le dit. Avec une gestion non professionnelle, avec des marchés publics passés un peu compliqués. Voilà, c'est quand même des choses que la Chambre régionale des comptes pointe. Le rapport de la Milos, il est clair. C'est un bailleur qui n'est pas géré par des professionnels du logement.
Va tomber dans le domaine de la métropole. Donc,
le logement va tomber dans le domaine de la métropole. Faut-il encore qu'on trouve un repreneur qui puisse reprendre le passif de la Sacoville et qui puisse être en capacité de le gérer? Donc nous, on a confiance, on sait très bien que sans la métropole, rien ne se fera, et notamment la compétence logement et la compétence urbanisme. Elle revient à la métropole, ce qui est différent quand même d'avant. Donc la Sacoville ne pourra plus faire tout seul. Déjà qu'elle ne fait plus, elle ne pourra plus continuer de fonctionner comme ça. Oui, nous comptons. On ne va pas dire vendre la Sacoville, mais trouver quand même, essayer de trouver soit des conventions. En tout cas, il y a de la réhabilitation à faire de la Sacoville qui va coûter extrêmement cher au bailleur. Est-ce qu'il aura les moyens de le faire? Je ne le pense pas. Donc il va bien falloir trouver une solution. On ne va pas les laisser, les 1700 locataires de la Sacoville, parce qu'ils habitent à la Sacoville, se débrouiller tout seuls. Non, on ne sera pas comme certains qui n'entendent rien, sauf 15 jours avant les élections municipales.
Et une dernière question pour M. Benkhalifa.
On a fait le tour, hein. Et la sécurité qui m'intéresse. On a au marché des Minguettes un marché parallèle qui s'est créé depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous faites appel au préfet? Est-ce que ce marché va disparaître? Est-ce que la municipalité va intervenir? Voilà, ça pose un problème. Alors, aux habitants et aux forains. Donc
j'avais fait un courrier l'année dernière à tous les forains. J'ai été leur distribuer personnellement pour leur dire tout simplement que si j'étais élu, d'abord, ce marché parallèle, je vais le faire disparaître. Il a disparu dans le 7e arrondissement, dans le 3e arrondissement. Je ne vois pas pourquoi il ne disparaîtrait pas ici à Vénissieux. Il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui pour le faire disparaître, c'est très clair. Quand le marché parallèle disparaît, c'est 15 jours avant les élections, on se dit que si ça disparaît 15 jours avant les élections, ça peut disparaître pour tout le temps. Moi, je passe avant d'aller au travail, notamment le jeudi et le samedi. Je vois quand même des gamins de 3 ans qui sont en train de courir dans la rue avec des chariots pleins pour aller et leurs parents à côté. Donc c'est dramatique. C'est dramatique de voir une image comme ça et de ne rien faire. Le préfet a son rôle et le maire, il a quand même un pouvoir de police. Quand je discute avec des agents municipaux, que ce soit de la police municipale ou alors la police nationale, on nous dit « Écoutez, monsieur Benkhalifa, mais nous, on nous demande de rien faire. » Alors, les communistes disent au contraire, mais on nous demande de rien faire. Ils ont une obligation de réserve, pas le droit de le dire. Moi, je vous le dis. Ils ont donné des instructions pour rien faire. Donc, laisser prospérer la misère pour récupérer des voix, moi, c'est pas mon credo. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ce marché parallèle, je prends l'engagement de le faire disparaître avec les moyens de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la mission régalienne, la sécurité, c'est une mission régalienne de l'État. On mettra les moyens qu'il faut pour faire disparaître ce marché parallèle parce que ça nuit à tout le monde. Ça nuit d'abord aux personnes qui en vivent, parce qu'ils récupèrent quand même dans les poubelles, c'est insalubre. Ça nuit aussi aux commerçants qui payent quand même des impôts. Ça nuit aussi à l'image de la ville. Donc personne n'est gagnant dans tout ça.